Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver. Je vous souhaite un bon réveil, un très bon petit déjeuner. Voilà, vous vous installez tranquillement et vous passez 3h avec nous. On a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Comme d'habitude, au sommaire, la finale de l'Open d'Australie qui va débuter dans quelques instants. Sinner Zverev, est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? C'est la une des GG. À 10h, la parenthèse de l'enchanté Wembanyama à Paris qui vient de se refermer quelques jours pour mesurer sa cote de popularité. Le phénomène du basket français est-il déjà de la trempe de nos grands champions actuels? Les Mbappé, Dupont, Riner et autres marchands. C'est une question, je vous le dis tout de suite, qui divise largement dans le studio RMC, voire qui agace. Je vous en parle dans quelques instants. Et puis à 11h, l'Olympique de Marseille retrouve les terrains. Ce soir, ce sera à Nice, une semaine après avoir allumé une nouvelle fois le feu sur l'arbitrage. À un moment donné, après ces déclarations, l'OM peut-il le payer cher? Ce sera notre question. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Une grande gueule qui, comme Wemby, à chaque fois qu'il fait un truc, c'est toujours en grande pompe. Fred Weiss, salut Fred.
Salut, salut.
Ça va mon Fred?
Ça va très bien.
Alors je sais que tu es très énervé sur le débat de 10h.
Oui, en fait je comprends pas, donc ça m'énerve.
Alors sachez-le, à 10h, enfin il était quoi? Il était 7h30 quand t'es arrivé ce matin au bureau, ouais. Bravo, hein, ça t'honore. Il est arrivé, il était déjà énervé. Il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette question? Pourquoi tu dis ça? Ouais, je suis énervé, ça va mieux là ou non?
Non, toujours pas.
Toujours pas.
En plus j'ai Sarah en face de moi et je pense qu'elle n'est pas d'accord avec moi.
Ouais. Mais j'ai essayé de ne pas faire... On a essayé de ne pas faire le débat dans tu vois, juste
dans
avant le studio, on a dit ouais. Oh là là là, non sinon... Sinon, on va se taper dessus, j'aurais dû mettre deux chaises l'une sur l'autre. Donc
oui, vous vous taperez dessus tranquillement à partir de 10h.
Voilà,
ça va être excellent ce débat autour de Victor Wembanyama. Ah ben justement, une grande gueule qui, contrairement à Wemby, on se demande si elle est petite ou si elle est loin. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Les deux, mon général. Bonjour à tous.
Ça va?
Très bien, très bien.
T'es prête à monter sur le dos de la grande carcasse, là, la grande bête?
Ouais, ou courir très vite, je suis pas sûre qu'il me rattrape. J'aurais au moins cet avantage, Fred, non?
Oui, mais je sais où tu travailles, Sarah.
Ah oui, ça, tu me vois que tu sais pas où j'habite. Oui.
Hey, à la boule. Une grande gueule qui, comme Wemby, s'étouffe pas avec les titres. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, salut les amis. T'es en forme, Jean-Christophe?
Ah oui, oui, enfin, je sais pas si je suis en forme, mais en tout cas, je suis là. Bon, Pascal, alors, je vous le dis, chers auditeurs, Christophe Cessieux devait être là ce matin. Il a eu une extinction de voix énorme. Je l'ai eu hier au téléphone, on l'entendait à peine parler. Bientôt 60 ans, notre cher Christophe.
Tes prières sont exaucées.
Mais tu sais quoi, c'était peut-être le meilleur jour pour qu'il soit au micro.
Ah oui, comme ça il parle moins.
Exactement.
Et on peut le couper plus facilement.
Exactement.
T'as raison. Et donc Pascal, comme ça, au débotté, au pied levé, il remplace. Donc je propose qu'on applaudisse quand même.
Je ne le remplace pas, Christophe est irremplaçable, vous le savez tous.
Mais il n'est pas là, Pascal.
On verra quand même à la fin de la saison s'il est irremplaçable. Et puis, une grande gueule qui, contrairement à Wemby, dès qu'elle arrive en France, on est obligé de lui dérouler le tapis rouge. Marion Bartoli, salut. Marion.
Eh ouais, c'est tellement rare.
Ben bonjour,
les amis.
C'est dans ton contrat. Tu reviens quand sur Paris? C'est pour Roland maintenant, c'est ça?
Ah oui, pas avant, ouais.
Bon, t'es en forme, Marion?
Exactement. Ça va nickel. Ouais. J'étais au pays du rugby en Afrique du Sud. J'ai fait un petit séjour là-bas. Tout va très bien.
Ok. Ben, t'as une vie sympa quand même. Hein. Parce que nous, sur Paris, c'est en France, c'est la grisaille, la pluie, le froid. Toi, tout va bien de ton côté?
Écoute, je ne me plains pas.
Parfait. Je pense qu'on va faire une très belle émission parce que, je le disais, on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. On va débuter tout de suite forcément avec un proverbe australien, c'est de circonstance, qui dit le repas de l'un est poison pour l'autre.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Je rencontre énormément de personnes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, envie d'aller de l'avant, mais qui pour autant me partagent avoir le sentiment d'être comme bloquées dans leur passé.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
Mais c'est un ace! Oh le mec! Il est pas longé, il est à genoux! Il est à genoux, Rafa Nadal! Il l'a fait! Incroyable démonstration de puissance, de tout! C'est le plus grand terrien de tous les temps!
C'est ainsi que je rencontre de nombreuses personnes qui, bien qu'elles soient adultes, pensent consciemment ou inconsciemment que leur passé les définit.
Il monte, elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne croit pas ses yeux.
C'est fini !
Novak Djokovic, il n'exulte même pas, il défie du regard les spectateurs du Châtelier. Mais le 19e est là.
Ce comportement, cette habitude, souvent inconsciente, les empêche d'aller de l'avant.
Sinner a une belle balle de coup droit, il attaque, c'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe, l'impensable s'est produit à Melbourne.
Et ça sort.
Victoire de Sacha Zverev, c'est une grosse victoire pour l'Allemand.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos.
Et oui, on en rêve encore, hein. Sommes-nous nostalgiques? En tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier acte de l'Open d'Australie 2025, un acte qui va débuter dans quelques minutes. Donc, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, affronte Sacha Zverev, numéro 2 mondial en jeu. Un troisième titre en grand chelem pour l'Italien. Enfin, peut-être un premier titre pour l'Allemand, qui a déjà perdu deux finales, sous nos yeux et dans nos oreilles. Donc, ce qui se fait de mieux, c'est la première fois depuis 6 ans que les deux meilleurs joueurs du monde se retrouvent en finale de l'Open d'Australie. La dernière fois, c'était en 2019. Ah, les souvenirs. C'était Novak Djokovic face à Rafael Nadal. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Sinner Zverev, est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
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 Ça va, Denis Charvel?
On m'a dit qu'il fallait que je le remplace aussi.
Ok, très bien. Pascal Duprat.
Non.
Marion Bartoli.
Oui.
Sarah Pitkovski.
Bien sûr que oui.
Bien sûr que oui. Ah, les tennis women sont là, hein, sont représentées.
Eh ben oui. Déjà, ce débat m'a énervé déjà de base. Hein, quand on lui donne la question, je me disais, mais c'est pas possible.
Mais dans ta présentation, de toute manière, il y a déjà la réponse.
Attends. On va voir ça dans quelques instants. On va débattre. On va retrouver notre envoyé spécial à Melbourne, Eric Salio, qui va commenter cette finale. Bonjour, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Salut.
Alors, Eric, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui sait comment gagner les finales de Grand Chelem et l'autre qui sait comment les perdre.
Oui, c'est vrai, t'as raison. 100% de réussite pour Sinner, qui a triomphé l'an passé ici même à Melbourne et qui a confirmé sur le ciment new-yorkais l'été dernier. Et 100% d'échec pour Zverev, battu en finale de l'US Open 2020 par Dominic Thiem. Vous savez, c'était la fameuse finale à huis clos sans le moindre spectateur et puis débordé au printemps dernier par Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Mais l'Allemand se sent plus costaud depuis justement cet échec porte d'Auteuil.
J'ai engagé Jess Green comme nouveau préparateur physique. L'homme avec qui je travaillais avant était l'un des meilleurs et l'une des meilleures personnes que je connaissais. Malheureusement, il a eu des problèmes de santé. Pendant les 7 années que j'ai déjà passées avec Jess Green, j'avais l'impression d'être l'un des joueurs les plus forts physiquement du circuit. C'est la raison pour laquelle je l'ai engagé, pour être à nouveau au même niveau physique, pour pouvoir rivaliser avec ces gars-là et pour essayer de gagner les gros tournois. Lors de la finale de Roland-Garros contre Carlos, j'étais fatigué et je ne voulais pas que ça se reproduise cette année.
Quand on épluche les rencontres livrées par Yannick Sinner, on se rend compte qu'il n'a jamais remporté une partie qui a dépassé les 4 heures. Darren Cahill, l'un des coachs italiens, consent qu'un marathon aujourd'hui ne l'arrangerait pas.
Alexander's older, right? He's a physical beast.
Sacha est plus âgé, non? Mais je reconnais que c'est une bête physique. Ça fait des années qu'il façonne son corps. Il a un excellent record sur les matchs en 5-7. Mais Yannick s'améliore physiquement. Il mesure 1m93, alors que selon le guide de l'ATP d'il y a 2 ans, il était à 1m88. Il sera encore meilleur au fil des années.
On surveillera donc l'horloge, mais peut-être aussi que Zverev sera inspiré par le succès hier de Madison Keys, qui désespérait de décrocher un chelem. Autre signe du destin, Stan Wawrinka a remporté son premier titre ici à sa 36e tentative. J'invente rien, Zverev prend part à son 36e majeur.
Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat évidemment. Sinner Zverev, est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Ça va commencer dans 15 minutes maintenant et vous allez suivre ça en direct sur RMC. Venez participer à notre débat. Marion, je commence avec toi, pourquoi t'es énervée sur cette question?
Mais je suis énervée parce que c'est entre guillemets rabaisser les deux joueurs qui sont en finale en disant ah ouais mais d'accord, mais donc nous s'il n'y a pas Djokovic ou s'il n'y a pas Nadal ou si avant pour les nostalgiques de Roger, il n'y a pas Roger, on ne va pas allumer la télé pour la regarder. Le niveau actuel de tennis développé par les Sinner, par les Zverev, par les Alcaraz est juste monumental. Ils vont construire leur palmarès au fur et à mesure, comme déjà l'a commencé à le faire Alcaraz et comme commence à le faire aussi Sinner, même si pour moi la finale de l'Open Australie l'année dernière, Medvedev passe quand même à côté parce que c'est Medvedev qui mène 2-7-0, mais comme il a eu des matchs extrêmement longs pendant tout le tournoi, il craque physiquement et c'est Sinner qui va remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Zverev, ça fait depuis 6 ans ou 7 ans qu'il est au plus haut du tennis mondial. Il a déjà remporté 7 Master 1000, 2 ATP Finals, ouais, donc le Masters de fin d'année, une médaille d'or au JO, 2 finales d'un tournoi du Grand Chelem. En plus, la finale, tout à l'heure, Eric dit qu'il s'est fait écraser en finale d'Orlan-Garros. Il est quand même mené 2-7-1 contre Alcaraz. Il a mené dans ses 2 finales du Grand Chelem. Il est passé à 2 points près. C'est un immense joueur. Le niveau de jeu va être être exceptionnel. Et ces deux joueurs, bien évidemment, qu'au-delà de tout, ils méritent qu'on se lève et qu'on regarde ce match. C'est une finale d'un niveau tennis extraordinaire. Alors oui, bien sûr qu'on restera nostalgique des trois grands parce qu'ils nous auront bercé de matchs absolument fabuleux au-delà de tout pendant 15 ans. Mais on va passer à autre chose, comme on est passé à autre chose de Sampras et Agassi, comme on est passé à autre chose de Borg et McEnroe. Et ils vont construire,
ils vont construire
au fur et à mesure leur légende.
Tu
c'est tout.
Mais pour moi, il n'y a pas que le sport, il y a aussi les ressentis, la nostalgie.
Mais non, mais bien sûr que non, c'est le niveau de jeu. Il faut respecter le niveau de jeu, sinon ça fait vraiment les tennis qui se disent, je regarde le tennis que deux fois dans l'année.
C'est le niveau de jeu qui est en cause, là. Évidemment, quand le premier joue contre le deuxième, le niveau de jeu, bien sûr que ça va être exceptionnel. Bien sûr qu'un Sinner qui vient de gagner 20 matchs de suite, c'est un monstre. Bien sûr qu'un Zverev a dit qu'après sa défaite contre Alcaraz à Roland-Garros, il avait travaillé physiquement parce que justement il s'était senti épuisé, qu'il n'avait pas fait les choses. Bien sûr qu'on va avoir un beau match de tennis, c'est une évidence. Sauf qu'il y a d'autres choses. Moi, il y a nostalgie. C'est pour ça que je dis oui, parce que évidemment tout ce que tu as dit, Marion, je suis d'accord avec toi. Ça va être un match fantastique. Mais il y a d'autres ressorts, comme tu le dis beaucoup mieux que moi, c'est magnifique. Parce que je pense avec nostalgie à ce qui s'est passé. Moi, à chaque fois, je compare, quand on parle de sport, je compare à mon sport. Moi, je verrai jamais d'autres finales plus intéressantes que celle de Michael Jordan. Pourtant, le niveau de jeu maintenant est bien meilleur. À Wembanyama, c'est incroyable. À LeBron James, c'est incroyable. Pourtant, dans mon cœur, dans mon âme, Michael sera toujours devant. La nostalgie, c'est important aussi. Il faut pas l'oublier.
Mais non, parce
Marie,
que tu respectes pas
que le sport.
Mais non, parce que tu respectes pas, les joueurs qui sont actuellement sur le terrain.
Bien sûr que si.
On ne peut pas éternellement se dire, ah ben oui, mais la finale de l'Open d'Australie, il n'y en a eu qu'une finalement, c'était Nadal Djokovic en 2012 et les autres, on ne va pas les regarder. Mais non, je suis désolée, ce n'est pas possible.
Je m'as dit que ça ne serait pas
possible. D'abord parce que c'est irrespectueux.
J'aurais une pensée sur ces anciennes finales et j'aurais toujours une petite boule dans le ventre en disant, c'était cool quand même, Djokovic Nadal.
Je reviens, Marion, évidemment. Pascal, tu vas avoir la main. Juste vous dire, et forcément, Marion, tu réagis comme une spécialiste aussi de tennis et on pose la question aussi au grand public. Est-ce que ce matin, quand ils allument leur télé, ils ont envie de regarder cette finale? Oui, elle est exceptionnelle. Oui, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais est-ce que c'est suffisant, Pascal Duprat?
En fait, ça va être très dur de déboulonner ce que vient de dire Marion. Et je m'en excuse à l'avance, Marion. Mais je respecte beaucoup les sportifs, les grands champions. Et les deux grands champions qui vont s'affronter dès 9h30 ce matin à Melbourne, ça c'est sûr et certain.
Ça sent le coup de rap.
Par contre, je vais te donner trois raisons. Il faudrait passer à autre chose. Tant que Djoko, qui était encore présent et que j'espérais faire un exploit, c'est-à-dire un 25e grand chelem, tant que Djoko sera encore là, je serai toujours nostalgique des trois grands. Ça, c'est la première des raisons.
Pascal, avant que l'Open d'Australie commence, Fred m'a dit en premier, non mais t'façon, Djoko, il vaut plus rien, il a plus aucune chance, il se rappelle jamais là.
Eh ben,
c'est moi-même qui te disais que la demi, ça serait Zverev, Djokovic,
je l'avais repoussé 15
jours avant que ton
raison. On va laisser finir.
Et donc, la deuxième raison, c'est que malgré tout ce que tu dis, et le bien que tu dis de Zverev, tu as raison de le dire, il a déjà 27 ans. Il est quand même temps qu'il se construise un palmarès et qu'il gagne des grands chelems. Je ne voudrais pas faire la comparaison avec les trois grands à cet âge-là. Et puis la troisième raison, vous n'en parlez pas, mais pour moi, même si les quantités qui ont été détectées étaient infinitésimales, il y a quand même le spectre d'un appel de Lama au TAS concernant Sinner qui me dérange un tant soit peu. Donc pour ces trois raisons, il y en a d'autres, eh bien, je me serais pas levé ce matin si j'avais dû, comme c'était prévu, faire ma grasse matinée. Je me serais pas levé pour regarder ce grand match. Voilà, et l'excitation, c'est un ressenti personnel, et moi, ça m'excitait pas de regarder cette finale ce matin, avec tout le respect que je dois à ces deux grands joueurs.
Exactement, c'est du ressenti personnel. Sarah Pitkowski, tu peux répondre à Pascal.
Je comprends que ça soit du ressenti, mais il y a toujours un début à tout à une histoire. Il y a toujours un début à tout à de grands champions qui s'installent. Et je pense que ce duel entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. Ce sont deux joueurs qui, aujourd'hui, jouent un tennis, et Marion l'a dit, remarquable. Après, on ne va pas rentrer dans les chiffres des uns et des autres, mais ils ont des styles de jeu qui peuvent nous offrir des duels qui peuvent être épiques. Et moi, évidemment spécialiste de tennis. Évidemment spécialiste de tennis. Sarah, non, 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 j'ai oublié de couper mon téléphone. Les deux spécialistes, en tant que spécialiste de tennis, j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que je connais les forces de l'un, les forces de l'autre, savoir comment ça va se jouer.
Sarah, c'est pas dans l'histoire, ça.
Non, mais l'histoire, il faut qu'elle. Exactement, mais il faut l'écrire la première page de l'histoire.
D'accord, donc c'est moins excitant. C'est excitant à partir du moment où l'histoire a commencé.
Pour elle, pourquoi elle est excitante? Parce que si tu te plonges juste dans l'histoire de ces deux hommes jusqu'à maintenant, oui, il y a des prémices de quelque chose d'excitant. Pascal l'a dit concernant Yannick Sinner, mais si je veux faire la mauvaise langue, je vais aussi du côté d'Alexander Zverev qui a eu un procès pour violence et il a acheté ce procès et on a mis tout ça sous le tapis. Et donc, ils ont des aspérités, ces deux mecs-là. C'est-à-dire qu'ils vont être adorés, mais ils vont être aussi détestés, ils vont être clivants à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, le sport, ce n'est pas uniquement qu'une performance sportive. On vient parce qu'on veut vérifier quelque chose. On veut voir si ce qu'on a lu dans la presse ou ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux correspond à l'idée qu'on s'en est fait à 10 000 km en n'étant pas spécialiste d'un sport. Et donc, c'est en ça que je trouve ça excitant. Il y a le sport, mais il y a aussi les à côté. Et franchement, je pense que de voir grandir et s'améliorer un sportif au fur et à mesure de sa carrière, moi, ce sont des storytelling qui me bercent.
Parce que tu es une spécialiste de tennis, mais encore une fois, quelqu'un qui est extérieur. Pour moi, j'ai besoin d'avoir un storytelling, comme tu viens de le dire. Et pour moi, une première finale, ça m'intéresse un peu moins. Pour moi, j'ai l'impression que Zverev est en dessous de Sinner qui marche sur l'eau actuellement. Donc je me dis, quelle est l'excitation de voir un Sinner gagner encore une fois.
Mais quand tu fais un Djokovic ou tu fais un Federer Nadal sur terre battue, il y en a bien un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous.
Oui, mais c'est l'histoire du train fantôme. C'est l'histoire du train fantôme. Cette nostalgie qui s'installe, parfois, elle est difficile à enlever.
Ok, on va aller voir Eric Salut en direct de Melbourne. La finale, c'est dans quelques minutes. Vous allez, on va poursuivre le débat. Appelez-nous au 32-16, évidemment. Est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Toi qui es avec des spécialistes de tennis, Eric Salut, tout au long de la journée, tu es avec des supporters qui viennent voir leur grand champion. Est-ce que cette finale, tu sens le même parfum qu'il y a quelques années?
Je mentirais en disant oui, effectivement, ça n'a pas le même cachet qu'une finale Nadal-Federer. Mais bon, à ce moment-là, la première finale de Federer à Wimbledon contre Philippe Poussis, on ne la regarde pas, quoi, en 2003. Non, mais c'est ça.
Non, on ne l'a pas regardée.
On ne s'en souvient pas d'ailleurs.
Non, mais il y a une histoire à tout. Moi, je pense que ça. Il y a toujours des émotions à la fin d'une finale. Les émotions de Madison Keys hier, ça, je pense, ça a remué tout le monde parce que c'est une fille qui pensait ne plus jamais gagner un grand chelem et à 29 ans, ça lui est tombé dessus. Et je pense qu'il y a peut-être une similitude. Tout à l'heure, moi, je crois beaucoup en, je vous ai donné des chiffres un peu orientés, c'est vrai. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec Zverev parce que, c'est un garçon qui était promis à en gagner, qui a été bloqué, qui a perdu cette finale à l'US Open contre Dominic Thiem.
Et la blessure face à Nadal
à Roland. Donc,
je pense
qu'il y a une sorte de destin tardif qui va lui tomber dessus et c'est pour ça que moi j'ai envie de voir comment il va gérer le truc parce que peut-être que Sinner est plus fort, peut-être que Sinner va réussir à poser son jeu et que ça va faire trois petits sets. Mais je suis convaincu parce que j'ai vu des signes avant-coureurs chez Sinner en demi-finale, des crampes en milieu de troisième set qui sont pas normales. Je pense que si on a un match à rallonge, à plus de 4 heures, il y en a un qui va péter un câble, qui va craquer.
On part en pub ou je peux répondre?
Tu vas pouvoir répondre dans quelques instants, bon, Marion. Tu connais évidemment parfaitement le conducteur de cette émission. On va poursuivre la discussion et se demander aussi, parce que c'est la grande question, et ce Zverev peut battre ses démons. Deux finales de Grand Chelem, pour l'instant rien de grave, deux finales perdues, ça arrive évidemment, surtout deux finales en 5-7, mais deux finales pour Sinner et deux finales gagnées. Est-ce qu'il y a des joueurs de finale? J'aimerais vous poser cette question. Il est 9h26, on se retrouve dans quelques instants pour les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Restez bien avec nous, on s'en fout pas dans une dizaine de minutes. J'ai des informations à vous donner. J'ai le nul du Paris Saint-Germain hier. On peut parler de hand ou encore de Novak Djokovic qui a répondu à ses détracteurs après sa blessure. Ça, ce sera dans 10 minutes. Justement, le tennis. On poursuit le débat sur cette finale de l'Open d'Australie qui va débuter dans quelques instants entre Yannick Sinner numéro 1 mondial et Sacha Zverev numéro 2 mondial. Marion, juste avant la pub, tu voulais répondre à Eric Salio.
Non, je réponds sur plusieurs points et notamment aux arguments de Pascal. Bon, déjà, Eric a évoqué le match effectivement avec les crampes là sur la demi. Il y a surtout le match sur Holger Rune où Sinner était complètement en train de trembler à chaque changement de côté. Si Holger Rune, je sais pas, il a complètement vrillé sur le plan de sa tactique, il s'est mis à faire n'importe quoi. Déjà, Sinner s'en sort complètement de raccroche sur ce match. Il faut pas oublier quand même que Zverev, depuis la fin de l'année 2024, il s'entraînait après chacun de ses matchs à Bercy pour préparer déjà 2025. J'ai une anecdote que j'aimerais rappeler pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui veulent faire du tennis professionnel. On est à Shanghai. Bublik, un joueur kazakh, et Zverev rentrent quasiment en même temps à Monaco parce qu'ils habitent au même endroit. Bublik reprend l'entraînement samedi après-midi alors qu'ils ont atterri tous les deux jeudi matin à Nice. Il voit, il croise Zverev au Country Club à Monte Carlo. Il lui dit, bah, ça va, ton premier entraînement se passe bien. Et Zverev lui dit, quel premier entraînement? C'est mon sixième. Jeudi matin, j'ai atterri, je me suis entraîné deux fois. Vendredi, je me suis entraîné deux fois. Samedi matin, je me suis entraîné. Là, c'est le sixième entraînement en trois jours. Donc, ce sont des joueurs qui mettent le tennis tout en haut de leurs priorités et qui font absolument tout ce qui est en leur pouvoir et ce qui est possible pour eux pour essayer de remporter ce titre du tournoi du Grand Chelem. Mais je suis désolée, je ne peux pas entendre qu'on réduit une carrière de quelqu'un à simplement au titre du Grand Chelem qu'il a gagné à partir du moment où il est dans l'ère la plus difficile du tennis masculin pour essayer de remporter quelque chose. C'est un joueur qui est techniquement est exceptionnel, qui physiquement fait tout ce qu'il peut. La raison pour laquelle il a effectivement été chercher Jess Green, qui est celui qui a formé Andy Murray, qui l'a amené à remporter ce titre du Grand Chelem pour essayer d'aller le faire, c'est quelqu'un à qui, sur en termes d'éthique de travail sur un terrain de tennis, on
s'en fout de l'éthique de travail, on veut l'excitation, on parle d'excitation. L'éthique de travail, ça n'a aucun rapport avec l'excitation. Parce qu'à un moment, c'est bien, il travaille beaucoup, il est préparé, et j'ai vu ses déclarations en plus. Ses déclarations, c'est je suis prêt, après Roland Garros, j'ai compris qu'il fallait que je me retravaille physiquement, etc. On a tous vu ça. Mais ça n'empêche pas que l'excitation, tu ne la crées pas avec du travail. C'est l'envie que tu décales par rapport aux autres.
C'est grâce au travail que tu vas transférer un palmarès.
On ne parle pas de palmarès. En fait, Mario, tu éludes la question. La question,
alors,
c'est de savoir si
donc, c'est excitant. Qu'est-ce qui t'excite chez Djokovic, Nadal ou Federer? Qu'est-ce qui t'excite chez Nadal, Djokovic et Federer? C'est pas la
moi, ce qui m'excitait à l'époque, mais encore une fois, c'est cette nostalgie, c'est le fait de voir ces grands joueurs jouer ensemble, l'historique qu'ils pouvaient avoir.
Mais parce que c'est leur palmarès.
Oui, parce qu'ils étaient avancés plusieurs fois. Ils étaient allés souvent l'un contre l'autre. Là, c'est la première fois que les deux s'affrontent en finale. Tu peux pas te dire que le storytelling a commencé. Il commencera peut-être après ce match. Peut-être qu'après, il y a une rivalité qui va se créer encore plus et que à partir de là, on pourra dire que c'est excitant. Sur la première, pour moi, c'est pas excitant.
Okay, Pascal.
Mais c'est excitant parce que c'est les deux meilleurs joueurs du tableau actuellement.
Non, c'est mais pour ça en fait, c'est excitant, ça c'est.
Sinon, en fait, tu prends toujours que les trois anciens, tu les fais jouer quand l'un contre l'autre.
Ah, non, mais c'est un compte. C'est un
compte. Oui, mais c'est ridicule.
C'est incontestable que c'est les deux meilleurs joueurs du moment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, voilà, moi, je suis pas excité. Ça me fait pas me lever. Ça me fait pas me trépigner d'impatience de voir ce match-là. Alors, certes.
Donc, en fait,
parce
vous
que
respectez pas le niveau qui est déployé.
Mais ça n'a aucun rapport avec
non, je te l'ai dit tout à l'heure, Marion.
Ça n'a rien à voir.
Mais bien sûr que oui. Si on pouvait faire un grand chelem sur un tapis, vous dites, ah, mais au moment en dessous d'un grand chelem.
Non, mais, mais Marion, c'est pas parce que tu te dévoues pour ton sport que forcément tu gagnes. J'en suis l'exemple frappant. Ça fait depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans que je me dévoue pour mon sport et pour autant, au niveau professionnel, j'ai jamais rien gagné.
C'est la seule chose que tu peux faire. Okay. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est essayer
mais,
au moins.
Cela dit, oui, c'était la meilleure voie pour réussir. Ça, j'en conviens. Mais pour autant, là, on est en train de parler d'excitation, on est en train de parler d'événements qui te transportent. Or, celui-ci ne me transporte pas. Et je te le répète encore une fois, quand je vois Djoko jouer, bah, son charisme, le fait qu'il soit controversé, eh bien, ça me donne envie d'être partisan de Djokovic parce que j'ai l'impression que le monde entier est contre lui. Quand je voyais Federer jouer, je suis désolé, c'était ce charisme qu'il dégageait, cette politesse, il incarnait le tennis à lui-même et Nadal, cette résilience incroyable. Eh bien, je ne le retrouve pas chez Zverev, malgré le fait qu'il s'entraîne beaucoup, malgré le fait qu'en 2024, il a bossé comme un fou, il a gagné des tournois, mais à 27 ans, pour moi, c'est pas le joueur d'exception parce qu'il a toujours pas gagné de titre du Grand Chelem. Je le respecte pour autant.
Très bien, je voudrais faire évoluer le débat parce que Pascal, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je reviens, Marion.
Si ces joueurs-là n'avaient rien gagné, vous les regarderiez même pas. Et on le sait tous. Donc
mais c'est possible. Mais c'est pas le cas en fait. Avec Messi, Marion, c'est trop compliqué.
C'est super parce que comme c'est des joueurs qui gagnent tout, alors ça me donne envie de regarder.
Oui.
C'est vraiment les Ténix.
Mais non, Marion,
pour
Roland Garros, c'est
Marion.
Mais non, Marion, ça tu peux pas parce que c'est pas à chaque fois qu'on te contredit sur des arguments qu'on est des Ténix. Ou c'est pas parce qu'on n'est pas des experts, évidemment. T'as été une grande championne. Sarah a été sportive professionnelle. Sarah a évolué au plus haut niveau. Bon, bah, vous deux, forcément, vous avez un regard différent.
On parle pas de technique, là. J'y sais. On parle pas de technique, on parle d'excitation. L'excitation, tout le monde peut en avoir, en fait.
Je voudrais faire évoluer le débat. Il y a Julien qui nous appelle, parce que ça fait beaucoup réagir au standard, qui nous appelle au 32-16. Je vais le prendre dans quelques instants. Mais juste, Sarah, je voudrais t'entendre sur un des arguments qu'a pu donner Pascal. Et c'est pas une obsession de ma part. Forcément, on en a beaucoup parlé dans cette émission de cette affaire avec Yannick Sinner. Est-ce que, avec cette finale, est-ce qu'on peut profiter pleinement du joueur? Ou est-ce que cette ombre autour de cette histoire, bah, ça empêche de rentrer pleinement dans ce personnage et dans ce joueur de tennis forcément fantastique?
Bah, ça empêche, je sais pas, ça peut aiguiser la curiosité, mais effectivement, tant que le jugement ne sera pas donné définitivement, il y aura toujours ce petit Roland qui traîne en disant, mais est-ce qu'il est tout à fait honnête sur ce qu'il nous a raconté? En fait, pour construire une histoire, il faut un début. Et un début, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que quand moi je réponds oui, c'est parce que
Tu anticipes ?
Non.
Ben si, parce qu'il ne s'est rien passé encore pour l'instant.
Exactement, mais parce que je vais aller voir, parce que je sais que ces deux grands joueurs-là vont peut-être écrire l'histoire du tennis, vont peut-être remplacer cette génération qui
peut-être.
Nous a bercés.
Je suis d'accord avec toi, peut-être.
Je vais être là le jour où l'histoire va s'écrire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire est en train de s'écrire. Et c'est en ça. Et je n'ai pas besoin d'être spécialiste d'un sport. À partir du moment où je suis le sport en général et qu'on me raconte des histoires et qu'on me dit que j'ai deux énormes champions, j'ai envie d'être au début de l'histoire. Parce que là, vous parlez aux âges où on a, évidemment, on les a vus, les Nadal, les Federer, les Djokovic, mais il y en a qui ne les ont pas vus, ces matchs-là, qui vont être bercés par ces duels-là, qui vont écrire leur passion du tennis parce qu'ils vont suivre.
Alors, ils vont être bercés par ces duels s'ils existent, parce que pour l'instant, c'est la première fois qu'ils s'apprennent. Donc,
c'est la première fois qu'ils s'apprennent à ce niveau-là. Cet enjeu-là.
Mais évidemment,
avec
donc, cet enjeu-là. Donc tu peux
mais
pas présumer ce qui va se passer.
Ils se sont déjà affrontés.
Évidemment.
Et il y a déjà un palmarès et une base qui s'est construite.
Pendant les phases finales et pendant la finale, ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer.
On est d'accord.
Bien sûr, mais je veux dire, ces deux joueurs, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent dans. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils vont à ces altitudes-là dans une finale de Grand Chelem.
Non, mais l'un contre l'autre, si.
Oui,
donc le storytelling et l'excitation vient de ça, justement, cette dualité.
Pas uniquement. Et je poserai ma question après, parce que Zverev, qui perd deux finales en 5-7, forcément, moi, j'ai envie de voir comment il va réagir sur cette finale. On en parle dans quelques instants, mais il y a Julien qui veut réagir au débat au 32-16. Salut Julien.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Ça va Julien, j'espère que tu as du gaz, mon Julien, parce que il faut s'imposer hein, dans l'émission. Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que tu es aussi excité qu'à la grande époque?
Ouais, franchement, je suis aussi excité qu'à la grande époque. Alors si c'est pas autant, c'est vraiment très 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 proche. Je vous trouve très très exigeant. Hein. On parle quand même du numéro 1 mondial face au numéro 2 mondial. Les deux ont surclassé tous leurs adversaires. En plus, il y a quand même de l'excitation parce que Zverev, il met 4-2 dans les confrontations directes. Donc on peut se dire que l'histoire peut tourner là dans quelques minutes. Et puis si on regarde la finale avec le prisme un peu de l'allemand, on se dit allez, faut regarder quoi. C'est peut-être son heure. On a tous en tête l'image quand il est en fauteuil roulant sur la terre battue de Roland. Depuis un an et demi, il revient. Mois après mois, il est meilleur. Ouais, on se dit que allez,
ça peut être son premier grand chelem.
Voilà, c'est et puis surtout, rappelez-vous, les finales de l'Open d'Australie, bien souvent, elles sont historiques. On se rappelle, je crois que c'est en 2017, un Federer qui bat Nadal 3-2. Mm-hmm. L'année dernière, un joueur qui mène 2-0, ouais, qui se fait retourner 3-2. Je crois qu'en 2012,
même Nadal contre Medvedev aussi.
Nadal Medvedev, exactement, Marion. Il y a également, en 2012, je crois, la finale entre Djokovic et Nadal qui dure, je ne sais plus, de 5-6 heures.
Ah, c'était excitant ça, Djokovic-Nadal, c'était sympa.
Ouais,
il remet une pièce dans la machine. Ouais.
Il faut laisser au triptyque Alcaraz, Sinner et Zverev maintenant le temps de faire leur histoire aussi. Et voilà, on n'a pas 20 grands chelems comme ça en se levant le matin. Donc, laissons l'histoire se faire. Et franchement, si on n'est pas excité par ce match, qu'est-ce qu'il faut?
Bravo, Julien.
Eric Salio, bravo. Les deux joueurs vont rentrer sur le court.
C'est parti, Sacha Zverev vient d'entrer sur le court et à l'instant même, c'est Yannick Sinner qui pénètre dans la Rod Laver Arena. Mais arrêtez, je vous trouve très négatif. Il y a quatre finales de grand chelem de l'année. On peut quand même les savourer. Zut.
Merci.
C'est pas vrai, ça.
Non, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas compris du tout. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont complètement, les tennismans sont complètement au-dessus. On est juste en train d'expliquer qu'on est un peu moins. Moi, j'ai répondu oui. Moi, j'ai répondu oui, en plus.
Oui.
Non, mais je peux comprendre, Fred. C'est vrai que Zverev, sur un court, il dégage pas grand chose. C'est une sorte de robot. Mais bon, c'est parfait techniquement ce qu'il fait. Mais bon, il va pas déclencher la folie dans le stade. C'est un mec qui travaille ses adversaires. Il mise beaucoup plus sur le physique qu'avant. Et c'est pour ça que oui, c'est. Ouais, c'est pas Federer, c'est pas Nadal. Il y a moins de flammes qui se dégagent du jeu.
Mais Eric, c'est juste la question. Est-ce que c'est la même chose? Et non, c'est pas la même chose. C'est Robocop qui joue là.
Les amis, je m'adresse aux deux tennis women.
Mais en fait, vous êtes que dans le jugement. C'est incroyable.
Vous avez 30 secondes, outré. Marion. Écoute-moi.
Je suis outré.
Vous avez 30 secondes, toutes les deux, juste pour nous dire s'il existe des joueurs de finale. Parce que là, on se pose la question. Parce qu'il y en a un qui a joué deux finales. Sinner, il a gagné les deux.
Et Zverev. Oui,
il y a des joueurs de finale. Comment ça se traduit ça, Marion?
Bah, c'est la capacité, quand tu es vraiment devant la pression ultime, à te surpasser et à faire le vide autour de toi et à rester concentré sur ce que tu as à faire. Il y a des joueurs qui sont plus capables de le faire que d'autres, bien évidemment.
Donc,
des joueurs qui sont rattrapés par les émotions et d'autres qui sont capables de les chercher. Mais la beauté de ce sport, c'est que tu peux échouer et en restant avec la conviction que tu vas y arriver, ça a été le cas de Madison Keys, tu peux être capable aussi d'aller chercher à la fin, même à la fin de ta carrière éventuellement. Et moi, je suis persuadée que ça va être effectivement le joueur de Zverev et que tu vas aller la chercher aujourd'hui.
Okay,
il a été trop proche pour pas être capable de le faire.
Pour toi, ce sera Zverev. Sarah, des joueurs de finale?
Bien sûr, et Sinner, depuis 15 mois, a prouvé qu'il était un joueur de finale. Il a une manière de jouer. Il a une manière de jouer lorsqu'il est mené ou quand il y a des points chauds. Et là, ce sont des statistiques qui ont été faites sur le jeu de Sinner. C'est un mec qui a particulièrement travaillé une tactique pour jouer les points importants et les points chauds. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'en 15 mois, il a un palmarès. Enfin, il a une trajectoire qui est quasiment sans faute. Après, aujourd'hui, il a un Zverev qui a énormément progressé au service. Et c'est en ça. Mais ça, je comprends, hein, Fred, Pascal. Ça.
Et côté coup droit aussi. Hein.
Et ça, c'est à qui nous l'expliquer? C'est à nous, Marion, Eric, à nous de vous l'expliquer pour vous donner le sel du match et vous donner envie de le suivre parce qu'on va vous donner des enjeux qui va vous rendre ce match excitant. Et au fur et à mesure des années, on va se lever pour les voir. Mais c'est à nous de faire le travail.
Dans certaines années, on sera là.
Jean-Christophe, je crains ne pas comprendre. Tu m'as demandé de me lever ce matin pour remplacer Christophe et tu me demandes de feindre l'excitation. C'est ça. Il faut que. Donc, en fait, je simule. Donc, c'est parti. Nous simulons. Allez,
voilà.
Je suis excité. Vite que ça démarre.
On est dimanche matin, il est 9h41 et je vous propose de simuler.
Il est aussi brillant que Chris, c'est bon là.
On a fait lever Pascal pour regarder cette pauvre finale de l'Open d'Australie.
Ah oui, bien sûr.
Il n'excite pas du tout.
Par contre, moi je propose un truc, c'est qu'à partir de lundi, on met Jean-Christophe à l'entraînement sur un terrain de tennis avec les charges qu'on s'est mises avec Sarah pendant des années.
Mais ça veut rien dire. Oh là là. Mais personne n'a dit que c'était facile, mais non. On peut pas. Voilà, on peut pas à chaque fois qu'on fait un débat réduire les autres en disant mais vous avez jamais fait de sport donc vous pouvez pas en parler. Nous on parle de sensations on parle de sensations et de sentiments. À un moment donné, tous les amateurs de sport peuvent parler de leurs sensations.
L'auditeur t'a très bien dit, les gens sont excités.
On ne reprend pas le débat, on a bien compris les copains. Il est 9h42, on va suivre cette finale avec Eric Salio tout au long de la matinée en direct de Melbourne. Merci Julien d'avoir composé le 32-16. On se retrouve dans quelques instants. Pour le « on s'en fout, on s'en fout pas », bah justement, j'ai du tennis à vous proposer avec Novak Djokovic qui a répondu à ses détracteurs. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h44, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. À partir de 10h, on ouvre le dossier Victor Wembanyama, sa tournée à Paris qui vient de prendre fin hier. On va se demander si Victor Wembanyama est déjà dans la caste des plus grands champions français actuels, les Mbappé, Rinner, Dupont et autres marchands. Vous allez voir, c'est un 2 contre 2. Et Fred Weiss, toujours énervé sur ce débat?
Toujours énervé.
Tu penses que oui, toi, j'imagine.
Eh ben, peut-être pas.
Oh si,
tu m'as dit oui.
Et vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous dire comme les autres. GG, évidemment. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je rappelle évidemment que nous suivons cette finale de l'Open d'Australie entre Sinner et Zverev et qu'elle va débuter dans quelques instants. La première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est justement Novak Djokovic qui répond à ses détracteurs après son abandon en demi-finale. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski. Ah, t'hésites.
Je m'en fous. Il faut passer à autre chose.
Ok.
Il faut qu'il arrête de
justifier. Non, tu peux plus en parler, justement. Alors, il veut prouver qu'il est allé au bout de ses efforts. Au lendemain de son abandon, on en a parlé hier, en demi-finale de l'Open d'Australie face à Zverev, Novak Djokovic a tenu à montrer qu'il était bel et bien blessé à la jambe gauche. Il l'a fait sur son compte X. Il a diffusé une photo d'une IRM effectuée dans la journée à Melbourne. Et voici ce qu'il a mis en légende. J'ai pensé laisser ceci ici pour tous les experts en blessure de sport. Voici ce qu'a déclaré Novak Djokovic. Ça fait écho comment, vous, Fred Weiss?
Moi, ça me choque. Et justement, Sarah a voulu commencer à expliquer quelque chose et je suis d'accord avec elle. Il faut arrêter de se justifier. C'est un énorme champion. Il n'a pas besoin de se justifier. On le croit sur parole. J'ai adoré les mots de Zverev, justement, à son égard, en disant il a besoin de prouver quoi, qui. S'il avait pu jouer, il aurait joué. S'il avait pu aller en finale, il aurait été en finale. Et s'il avait pu battre tout le monde, il aurait battu tout le monde. Il feint pas la blessure. Évidemment que non. Et je trouve que dans ce monde où t'es obligé, une superstar comme lui obligé de se justifier, ben moi ça me choque un peu.
Oui, mais peut-être qu'il en a eu marre aussi.
Il est au-dessus de la meute.
De cette relation particulière avec le public.
Il est au-dessus de la meute, il doit passer à autre chose.
Marion ?
Exactement, il a ressenti le besoin de se justifier parce qu'il y a eu des sifflets lorsqu'il est sorti du terrain et que je pense qu'il en a ras-le-bol qu'à chaque fois on entend de certains spécialistes de tennis dire ah ouais mais non il a rien, ouais mais non il nous invente la blessure, sinon comment il aurait fait pour battre Alcaraz, c'est pas possible, si tu commences à avoir mal au milieu du premier set comment tu peux arriver à battre Alcaraz en 4-7. Et donc il a senti le besoin de se justifier, il l'a fait avec une touche d'humour en disant bah entre guillemets pour tous les experts, les spécialistes, à dire
Marion, c'est donner raison aux haters, voilà. Ça Marion,
il
n'a pas besoin. C'est un énorme champion, c'est un immense champion.
Mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien que Novak fonctionne comme ça. Donc
mais oui, c'est triste, je trouve. Voilà. C'est dommage.
Exact. Oui, mais bon, c'est que ça soit un immense champion et qu'il ait eu aussi construit son caractère et sa carrière sur, entre guillemets, le besoin de prouver aux autres et de montrer aux autres, c'est ce qui lui a permis aussi d'être à ce niveau-là. Donc tu ne peux pas louer les qualités de quelqu'un qui lui a permis d'avoir le palmarès qui s'est construit et de l'autre côté lui dire, mais non, on ne le fait pas. Voilà, il en a ressenti le besoin, il le fait, point terminé.
Ok,
il
Pascal.
D'accord avec Marion, il fait ce qu'il veut en fait. Et donc comme ça le gonfle de se faire siffler, eh bien, s'il a envie de commenter, comment. De toute façon, je pense qu'il se nourrit de ça. Il se nourrit du conflit. C'est ce qu'il a nourri tout au long de sa carrière. Donc c'est comme ça, je le respecte pour ça.
Eric, salut en direct de Melbourne. C'est une finale à sens unique entre Sinner et Zverev.
Ouais, premier jeu de service remporté par
Yannick. Bah, jeu blanc quand même. Assez, il n'a pas mis un point, Zverev.
Ouais. Tout à l'heure, je sais, tu...
Il est horrible.
Tu demandais tout à l'heure s'il y avait des losers. Oui. J'ai une liste de garçons qui ont perdu leurs trois premières finales de Schlem. Et tu vas voir que.
Il y a Lendl dedans.
Voilà, Lendl, Agassi, Ivanisevic, ouais. Murray, Tim, Ruud, tu vois. Donc tu peux perdre tes trois pour gagner derrière. Hein, c'est pas.
Bah voilà. Bon, bah parfait.
Alors, je sais pas si Léon Marchand est dans les loges. Aujourd'hui, hier, il était là. Je sais pas s'il est dans la loge Louis Vuitton, mais en tout cas, donc.
Bah s'il y est,
c'est tellement excitant. Tu regardes.
Oui, bien sûr,
tu crois que j'ai accès à ma loge, à cette loge avec mes tongs, quoi.
Mais ça va pas. Oui, c'est vrai, le pantacourt, les tongs, et la chemisette. Oui,
tu vas pas rentrer. C'est la raison pour laquelle il fallait m'envoyer en Australie, déjà.
Oui, mais ça nous coûtait trop cher en billet d'avion.
Oui, tu sais, moi, on me paye pas le business, Marion.
Le business.
Eric.
La business.
Eric, t'es très bien en écho, mon Eric. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Les choses sérieuses qui vont débuter pour l'équipe de France de hand. On s'en fout pas. Je vais aller voir qui. Tiens, Sarah Pitkowski.
Oh non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Mais Pascal Duprat.
Non, on s'en fout pas.
Marion.
Je m'en fous pas.
Ok, Fred.
Je m'en fous pas trop.
Tu veux laisser ou pas ?
Non, je m'en fous pas, mais j'ai envie d'écouter en fait.
Ok, déjà voilà, qualifiée et assurée d'être première de son groupe, l'équipe de France de hand s'est imposée hier soir pour la 6e fois en 6 matchs dans ce mondial face à la Macédoine du Nord. Victoire 32 à 25. On va retrouver justement notre envoyé spécial Clément Brossard en Croatie. Bonjour Clément.
Salut JC, salut tout le monde. Pas de tong et pantacourt ici.
Ah, bravo. Oui, il fait un peu plus froid, évidemment. Ah bah oui. Un peu plus frais. Même si tu les as pris dans la valise. Maintenant, les quarts de finale, mon cher Clément, et les Bleus arrivent, je le disais, évidemment, en pleine confiance.
Exactement, 6 victoires en 6 matchs, on pouvait difficilement faire mieux pour les Bleus, qu'il faut souligner n'ont pas eu une adversité énorme sur ces deux phases de poule. Réaction de Karl Konan à l'issue de cette dernière victoire hier soir face à la Macédoine du Nord.
L'essentiel est fait, on passe en quart sans avoir perdu de match. On a pu faire reposer ceux qui avaient beaucoup plus de temps de jeu et on gagne. Donc on peut être content de ces deux tours.
Carconan monstrueux en défense, c'est là la grosse satisfaction vraiment des Bleus dans ce début de mondial. L'efficacité aussi des gardiens, Rémi Desbonnet et Charles Bolzinger. On pense d'ailleurs à Samir Bellassène qui a dû quitter le rassemblement sur blessure dès la première semaine. La plaque tournante dit quand même Nedim Remili monte-t-elle aussi en puissance. Après oui, il y a des moments de flottement sur certains matchs observés, des ailiers pas franchement réussis, une fluidité qui peut encore être améliorée, mais difficile vraiment d'imaginer ce que pourrait donner ces Bleus-là face à une équipe prétendante au titre à l'aube d'une troisième semaine de mondial. Qu'attend de savourer et Elohim Prandi.
Elle va être bien plus excitante, on est impatient. Et jusque-là, on a fait un sans faute et on se doit d'élever notre niveau dans tous les aspects du jeu pour pouvoir aborder cette dernière semaine de la meilleure des façons.
Et puis je l'ai sondé, Elohim Prandi, sur le match à venir. On est encore dans l'attente de l'identité de notre prochain adversaire. Tout se jouera ce soir dans la poule que l'on va croiser. Trois probabilités, la plus certaine, sauf vraiment au miracle, serait l'Égypte. Mais on pourrait aussi se retrouver face à l'Islande ou la Croatie. Si c'est pas le cas en quart, ce pourrait être le cas en demi. Je vous rappelle que le match aura lieu mardi à Zagreb, capitale croate. Alors s'il fallait choisir, la réponse du Parisien Prandi.
Alors, je vais pas te donner de choix. Je vais te dire peut-être la Croatie parce que l'ambiance, plus de 10 000 personnes à Zagreb, ça doit être un délire incroyable. Et c'est vrai que malheureusement, depuis le début de ce championnat, on n'a pas des salles bien pleines. Mais sinon, j'ai envie juste qu'on aborde chaque match de la meilleure des façons et qu'on puisse passer les étapes.
Et donc avec pour les poussées des supporters français qui on l'espère viendront nombreux à Zagreb, il faut dire que pour Etch puis Varaždin c'était pas le plus simple pour se déplacer, mais on comptait à chaque fois plusieurs dizaines de personnes en bleu blanc rouge dans les tribunes, notamment Gaël et Xavier. Eux ils habitent en Autriche, ils étaient là hier soir à 3h de Varaždin, donc en voiture, et ce qu'ils ont vu des Bleus hier, ça leur permet de croire en quelque chose de beau.
On les sent sereins, en plus on fait un petit peu tourner, on préserve certains joueurs. La jeunesse prend le relais, ce qu'on appelle les anciens, mais ils pètent le feu, donc on est super confiants pour la suite.
Jusqu'à la médaille d'or, jusqu'en finale, gagner la finale, moi j'espère pas moi.
Et en attendant la finale, les GG, il y aura deux gros matchs à négocier, donc mardi et jeudi, bien au-dessus des équipes affrontées jusqu'alors. Et attention, parce que le Mondial a déjà offert quelques surprises, avec les éliminations notamment de l'Espagne, la Norvège, la Suède, dès le tour principal.
C'est vrai, merci beaucoup Clément Brossard pour ce reportage, mais on ne peut s'empêcher, Sarah, de se dire que il faut attendre quand même beaucoup de matchs avant que ça commence vraiment ce championnat du monde.
Bah oui, c'est le principe du hand et avec leur phase de poule là qui change et qui sont difficilement compréhensibles. C'est vrai que, et en plus de ça, notre histoire avec le hand fait qu'on commence à s'intéresser quand ils commencent juste à être en quart de finale. Ils ont un tel palmarès que le minimum syndical c'est un podium pour cette équipe de France et je pense que là aujourd'hui on a une attente de cette équipe de France. On a quand même été déçus aux Jeux Olympiques, donc je pense qu'ils ont eux aussi à cœur de revenir au sommet. Et d'ailleurs je lisais des interviews de Guillaume Gilles qui disait que cette équipe de France a démarré cette compétition de manière très sérieuse. C'était un peu le reproche qu'on leur avait fait aux Jeux Olympiques, où on les trouvait un peu trop potin et un peu trop sur deux. Notre histoire avec le hand mérite que ça reste au sommet. Donc il y a des grosses équipes en moins, c'est pas plus mal. Ils étaient champions d'Europe l'année dernière, un titre de champion du monde en 2025 ferait effacer un peu cette désillusion des Jeux de Paris.
Il reste trois matchs.
Vice-champion du monde aussi, Sarah. Champion d'Europe et vice-champion du monde.
Oui, vice-champion l'année d'avant.
Oui, bien sûr. Non, mais on a tendance à rester sur les Jeux Olympiques, mais c'est vrai que ça a été un échec. Mais oui. Les compétitions d'avant ont été quand même monstrueuses.
Il reste trois matchs pour cette équipe de France. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr et évidemment, on suivra cette fin d'aventure palpitante pour notre équipe de France. On va passer à autre chose. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la décompression du Paris Saint-Germain après l'exploit face à City. On s'en fout, on s'en fout pas, Fred Weiss.
Je m'en fous.
Ok,
je sais pas quoi en dire, j'ai pas vu le match, Pascal est là.
Je crois que tu t'en fous. Bah Pascal peut-être qu'il s'en fout.
Pascal. Si Pascal s'en fout, non.
Pascal s'en fout. Non, moi je m'en fous pas, moi.
Ok, voilà. Et Marion Bartoli ?
Je m'en fous pas.
Trois jours après son spectaculaire renversement contre Manchester City, on en parlait hier, et quatre jours avant d'essayer de valider son billet pour les 16e de finale de la Ligue des Champions à Stuttgart, le PSG n'a pu faire mieux donc qu'un nul, un partout face à Reims hier soir au Parc des Princes. La bonne nouvelle de la soirée tout de même, c'est le premier match avec le Paris Saint-Germain de Gvisha, avec Kvaratskhelia qui a délivré une passe décisive.
Tu t'es entraîné ?
Pas du tout, c'est naturel.
Moi, je voulais m'entraîner justement à prononcer son nom.
Ah bah vas-y. Vas-y, bah, Pascal.
Kvaratskhelia, son prénom c'est Kvitcha, et ben il a fait un très bon match, il a joué 83 minutes et il a fait une passe décisive.
Alors je te propose, Pascal, c'est une première, tu sais ce que tu vas faire, tu vas me remplacer et tu vas dire écoutez, chers auditeurs, je vous propose d'écouter la première réaction de Kvitcha Kvaratskhelia. Vas-y, tu peux le faire.
Chers auditeurs, je vous propose d'écouter la première déclaration après le match de Kvitcha Kvaratskhelia.
C'était plus compliqué là.
Je suis vraiment heureux d'avoir réalisé une passe décisive pour mon premier match ici à Paris. Je suis très fier de cela, mais déçu de ne pas avoir pu gagner ce match, car on aurait dû l'emporter. On doit travailler plus dur.
Bravo mon cher Pascal de t'être prêté au jeu. Marion, sur ce match nul du PSG.
Avec question que je te dise. Je me suis toujours pas remis 2-0 qui s'est transformé en 4-2. Donc laisse-moi m'en remettre s'il te plaît, puis on verra après. Non, mais par contre, qu'effectivement il y a une petite décompression, c'est complètement normal. Qu'il fasse tourner aussi son effectif, c'est complètement normal. Là, le plus important pour le PSG, c'est d'assurer la qualif en Ligue des Champions. Le championnat, on sait très bien qu'il est plié. Donc c'est une gestion qui est logique de Luis Enrique.
Le PSG a désormais 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Un match en plus, évidemment. On parlera de l'Olympique de Marseille à 11h. Qui se rend à Nice ce soir. Pascal,
vous vouliez que je vous parle du match du PSG?
Comme tu veux, ou tu peux nous parler de
ce que t'as mangé au filet, mais ils n'ont pas laissé le match, contrairement à ce qu'on pourrait, le score pourrait laisser croire. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont fait un bon match, le Paris Saint-Germain. Ils auraient dit logiquement l'emporter, mais Reims n'est pas un faire-valoir. Donc voilà, non. Un très bon match du PSG et une touche particulière avec cette nouvelle recrue.
Et le match, c'est mercredi soir en Ligue des Champions, hein, pour savoir si le Paris Saint-Germain va se qualifier. Un match nul suffit. Peut-être qu'en cas de défaite, il y aura aussi une qualification. Mais pour s'assurer, évidemment, d'aller en 16e de finale, il faudra battre Stuttgart en Allemagne. C'est donc mercredi soir à suivre sur RMC. Un point avec Eric Salio à l'Open d'Australie, la finale entre Sinner et Zverev.
2-1 pour Yannick Sinner, donc dans cette première manche, il a remporté ses jeux de service assez facilement. Et c'est Zverev qui est au service et qui est à 0-30. Attention, première petite alerte pour l'Allemand qui joue en rouge alors qu'en face est en jaune avec deux petits boutons sur le col. Ça fait un peu papy, je trouve, sa tenue, mais bon, ce n'est que mon avis.
Ah non, mais ça y est, maintenant, si on juge sur la tenue, non, mais Eric, arrête, s'il te plaît.
Allez, on revient dans quelques instants pour suivre cette finale, évidemment, à l'Open d'Australie, et puis vous parler de Victor Wembanyama. Ça va être un débat extrêmement houleux, je préfère vous le dire, dans le studio RMC. Victor Wembanyama est-il déjà dans cette caste des plus grands champions français actuels? À tout de suite sur RMC, ce sera un 2 contre 2.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.